On va se plonger dans l'entretien du 18h et on va parler d'un réseau énergétique partant d'Israël. Et oui, en voyage officiel à Chypre, vous le savez si vous écoutez les infos, Benjamin Netanyahou a rencontré ses homologues grecs et chypriotes. Le premier ministre israélien a introduit l'idée d'étendre les accords d'Abraham afin de créer un réseau énergétique et infrastructurel reliant l'Asie, la péninsule arabique, Israël, Chypre, la Grèce et l'Europe. Voilà un projet bien ambitieux. Blaise van der Linden, eh bien, vous êtes entretenu avec Jérémy Haddad, il est partner energy chez EY à ce sujet.
Jérémy Haddad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partner energy chez EY. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué à Chypre la possibilité pour Israël de jouer un rôle clé dans un corridor énergétique reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Jérémy Haddad, c'est une annonce à laquelle on s'attendait, cette implication d'Israël ?
Oui, on s'y attendait parce que il y a une situation globale énergétique qui est assez claire. L'Europe a absolument besoin de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz depuis que la Russie ne lui en envoie plus, et donc elle cherche ça de partout. Et d'un autre côté, on sait qu'Israël a trouvé des gisements de gaz très importants, et donc elle a besoin aussi de trouver des débouchés. Donc toute la question, c'est de savoir comment est-ce que Israël peut écouler son propre gaz vers l'Europe qui, elle, en a absolument besoin. Et il y a plusieurs solutions. Et une des solutions, elle passe effectivement par Chypre et la Grèce.
Ce corridor énergétique, donc, il ne servirait uniquement qu'au gaz ?
Alors oui, sachant que rentre aussi dans les discussions une question sur un câble électrique sous-marin. Et ce câble électrique sous-marin, il pourrait aussi relier l'Europe à l'Asie, mais je dirais que ça, c'est un sujet qui est peut-être un tout petit peu plus prospectif que celui du gaz, qui là est un sujet extrêmement brûlant.
Ce corridor, il pourrait aider l'Europe donc à sortir de la crise énergétique actuelle, c'est le but ?
Oui, alors évidemment, il faut avoir en tête les ordres de grandeur, hein. L'idée, c'est pas que le gaz israélien puisse remplacer complètement le gaz russe, qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, hein. C'est clairement plusieurs dizaines de fois moins important le gaz israélien que le gaz russe. Mais néanmoins, l'Europe fait feu de tout bois pour trouver des diversifications potentielles. Alors toute la question, c'est la question du transport en fait. Et une fois qu'on a extrait ce gaz qui se trouve dans les côtes israéliennes, la question c'est comment est-ce que derrière on l'achemine vers l'Europe. Et là, il y a plusieurs solutions globalement. Il y en a deux principalement. Il y a une première solution, c'est d'avoir un gazoduc qui part directement de la plateforme pour ensuite l'envoyer directement en Europe. Et là, la question, c'est par où est-ce que ce gazoduc peut passer ? Et là, il y a plusieurs options. Il peut passer effectivement par Chypre, par la Grèce, mais aussi par la Turquie. Et j'espère que ça va être un enjeu pour Benjamin Netanyahou de ménager, on va dire, la chèvre et le chou, et donc de ne pas mécontenter l'un de ses partenaires, que ce soit la Turquie ou Chypre. Et puis la deuxième possibilité, c'est de faire du gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire de liquéfier ce gaz qui est extrait autour des côtes israéliennes, de le mettre dans des grands bateaux en fait qui sont des bateaux qui sont spécialement faits pour transporter ce gaz liquide et ensuite le livrer à un terminal de dégazification qui permet en fait de le rendre gazeux et de l'envoyer dans des pipelines locaux par exemple en France. Et donc toutes ces questions-là, c'est des questions qui vont être abordées notamment avec Chypre. Est-ce qu'ils préfèrent faire on va dire un vrai gazoduc, et ça c'est on va dire le scénario qui a le plus de plomb dans l'aile parce que les États-Unis s'y opposent pour des raisons politiques et puis d'un point de vue économique on sait pas très bien si ça va vraiment voler. L'autre option qui est peut-être probablement plus probable, c'est de passer par un terminal de liquéfaction. Il y en a un en Égypte, et donc aujourd'hui c'est comme ça que Israël envoie son gaz en Europe. Il l'envoie en Égypte, le gaz est liquéfié, et puis ensuite ça part en Europe. Mais compte tenu du volume de gaz disponible, il est tout à fait possible d'en avoir plusieurs, et donc d'en créer un potentiellement à Chypre, pour que ensuite le gaz soit acheminé vers l'Europe.
Donc aujourd'hui, les infrastructures ne sont pas présentes, il va falloir construire.
Absolument, absolument. Tout l'enjeu, c'est justement de construire de nouvelles infrastructures. Et l'idée, c'est pas qu'il n'y en ait qu'une seule, hein. C'est ce que je disais en disant que Netanyahou allait devoir ménager les chèvres et le chou. Il peut tout à fait imaginer de créer avec Chypre un terminal de gazification et en même temps de travailler, de continuer à travailler avec la Turquie. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales du réchauffement des relations entre la Turquie et Israël récemment, de faire passer un gazoduc entre Israël, la Turquie, l'Azerbaïdjan et puis ensuite vers l'Europe. Tout ça pour avoir un maximum de possibilités d'écoulement de son gaz et d'avoir des solutions alternatives ou de rechange si jamais les relations géopolitiques avec l'un ou l'autre de ces acteurs se refroidiraient nettement.
L'Europe recevait beaucoup de gaz de la part de la Russie, c'était le fournisseur principal. Pour revenir aux infrastructures, les infrastructures utilisées pour le gaz russe peuvent-elles être utilisées dans ce cas de figure-là?
Non, pas du tout, parce que les infrastructures de gaz russe, le gaz russe, c'est des gazoducs, c'est-à-dire c'est des gazoducs qui avaient des dons. Il y avait Nord Stream et Nord Stream 2 qui sont des gazoducs qui partent directement de Russie et qui arrivent directement en Europe. C'est comme des autoroutes, si vous voulez. Une autoroute, ça se bouge pas, ça se déplace pas. Elle est censée relier un point A à un point B et on peut pas lui faire relier un point qui est plusieurs milliers de kilomètres au sud. Donc non, il faut créer de nouvelles infrastructures et donc ces infrastructures, c'est bien de nouveaux gazoducs ou bien de nouveaux terminaux de liquéfaction.
Les avantages d'Israël là-dedans, c'est géopolitique et économique?
Oui, c'est les deux. C'est-à-dire que vous voyez bien que la Turquie est très très intéressée par être capable de faire transiter ce gaz israélien sur son sol, ce qui a amené d'ailleurs Erdogan à mettre un peu d'endroit sur vent, parce qu'on se souvient qu'il était extrêmement hostile à Israël, et puis d'un seul coup, il se réchauffe. Et ce réchauffement, je l'ai dit, il est lié beaucoup à cette question énergétique et à cette question du gaz, parce que Erdogan voyait aussi que si jamais il ne transigeait pas, eh bien Israël allait se tourner vers d'autres pays comme la Chypre ou Grèce pour mettre en place un autre projet concurrent qui s'appelle aujourd'hui EastMed, qui vise à installer un vrai gazoduc entre Israël et l'Europe via Chypre et la Grèce. Et donc il aurait perdu évidemment une capacité à faire transiter ce gaz avec toutes les retombées économiques qu'il y a derrière et sa capacité de plateforme géopolitique entre l'Europe et l'Asie. Donc Erdogan a mis un peu d'eau dans son vin, et d'ailleurs on voit dans les annonces aussi qu'il y a une visite prochaine qui est prévue de Benjamin Netanyahu en Turquie, alors qu'il n'était plus allé en Turquie depuis de très très nombreuses années. Donc c'est à la fois un bienfait économique, puisque évidemment Israël, ce sont des exportations très importantes qui vont avoir des retombées sur l'économie israélienne, mais aussi des avantages géopolitiques, parce que ça permet de réchauffer des relations avec des pays très très importants de l'ensemble de son environnement proche.
Vous avez évoqué Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Lors de cette guerre, ils ont été sabotés. Est-ce que ça peut être une crainte qu'Israël pourrait avoir de se faire saboter sa livraison de gaz ?
Écoutez... Dans l'absolu, oui. Après, encore faut-il qu'il y ait un acteur à qui ça on va dire, qui a un vrai mobile. On ne sait pas vraiment qui a saboté Nord Stream. Certains disent que c'est la Russie. La Russie dit que c'est pas elle. C'est vrai que d'un certain point de vue, on voit pas très bien en fait quel intérêt en tire l'une et l'autre des contreparties. C'est quand même assez inédit qu'il y ait comme ça un sabotage d'un gazoduc. Ce sont des infrastructures qui sont en général extrêmement surveillées, qui sont très stratégiques, qui arrangent en fait tout le monde. Et puis pour saboter un gazoduc, il faut quand même un certain nombre de moyens qui sont des moyens de vrais chasseurs de combat, de nageurs de combat de très haut niveau, donc du niveau probablement d'un État. Donc voilà, écoutez, oui, c'est toujours possible, mais enfin aujourd'hui, c'est quand même plutôt de la science-fiction. Là, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on les construit et lequel va être construit le plus rapidement.
Pour terminer, Benjamin Netanyahu a également souligné l'importance stratégique d'un réseau de fibres optiques dans ce corridor. Alors, en quoi ça consiste et quelle en est l'utilité ?
Des fibres optiques, il y en a un peu partout de façon sous-marine. En fait, c'est ceux qui vous connectent à Internet. Et donc, ce sont des, il y a des fibres en fait qui traversent l'Atlantique, qui traversent le Pacifique, etc. Et c'est par ces réseaux-là que transite en fait tout le système Internet. Dans des pays un tout petit peu isolés comme les pays d'Afrique par exemple, ou même Israël, le fait d'avoir qu'un seul réseau de fibre optique qui vous connecte après à l'ensemble de la toile, ça vous met en situation de faiblesse. Parce que là, pour le coup, il suffit que vous ayez un câble qui plante, pas forcément pour des raisons de sabotage d'ailleurs, mais parfois pour des raisons techniques, et vous avez d'un seul coup tout votre pays qui est complètement mis à l'arrêt et qui n'a plus Internet. Et donc, c'est bien d'avoir des redondances, c'est-à-dire d'avoir plusieurs câbles qui vous relient à l'ensemble de la toile. Et donc, le fait d'avoir une fibre complémentaire qui relie Israël au reste du monde, c'est évidemment très important. Et le fait qu'on profite, si vous voulez, de la création d'infrastructures pour mettre des câbles électriques ou des gazoducs de façon sous-marine, on en profite pour rajouter en fait de la fibre optique. Ça permet en fait de réduire les coûts et donc quelque part de comme une sorte de passager clandestin de rajouter des fibres pour un coût assez réduit dans le cadre d'un projet beaucoup plus important d'infrastructure gazière ou électrique. Voilà, donc effectivement c'est plutôt une bonne idée pour solidifier la connexion d'Israël avec le réseau télécom et le réseau internet global.
Jérémy Haddad, je rappelle que vous êtes partenaire énergie chez EY. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Je vous en prie, avec plaisir.